La joie de Camille, c'est le podcast qui raconte des histoires intimes liées au spectacle vivant ou à la musique. Dans ce format d'interview croisée, j'invite des podcasteurs ou artistes à nous dévoiler leur rapport à leur passion en allant chercher les souvenirs de leur petite enfance à aujourd'hui. Comment cette passion du spectacle ou de la musique est rentrée dans une vie? Qu'est-ce qui a marqué le début d'une vocation pour les artistes qui en vivent? Ou par quelles émotions une passion a mené à l'envie d'y dédier un podcast ou une page Instagram? J'avais le désir de poser ces questions pour ceux qui en ont fait un métier ou un projet à partager pour découvrir d'où vient cette flamme en eux et retrouver la racine des premières grandes émotions. Aujourd'hui, c'est Tessa, la créatrice du podcast Derrière le son, qui répond à mes questions autour de son histoire avec la musique. La musique, c'est une grande partie de sa vie et de son quotidien d'animatrice radio. En 2023, elle dédie un podcast à cette passion où elle enquête sur le dessous des chansons, car pour elle, derrière le son, il y a toujours une histoire. C'est un podcast que j'adore écouter, où on découvre les coulisses de chansons mythiques. J'aime particulièrement son approche et son travail. Au travers de chaque épisode, on se rend compte de l'universalité des émotions et de l'humanité qu'il y a derrière chaque artiste, aussi légendaire soit-il. Afin de découvrir l'histoire de Tessa et la bande-son de sa vie, je lui ai envoyé mes questions et elle a gentiment pris le temps d'y répondre de la manière la plus sincère. En écoutant ses réponses, mon sourire ne quittait plus mes lèvres, nous avons pas mal de références en commun et une pointe d'émotion s'est parfois invitée en découvrant son témoignage. Je vous souhaite à vous aussi une très bonne écoute et je vous laisse avec la première question. Tessa, tout d'abord, quelle musique a bercé ton enfance ?
Je pense que je peux dire que pendant mon enfance, il y avait un peu deux axes musicaux différents. J'ai des parents divorcés, du coup ça écoutait pas vraiment la même chose des deux côtés. Chez mon père, c'était plus du rock qui passait avec beaucoup d'AC/DC, du Nirvana, du U2. Mais il y avait aussi des trucs plus folk comme Bob Dylan ou Tracy Chapman. C'est des artistes en fait auxquels je suis venue beaucoup plus tard, à l'adolescence, tu vois. Quand j'étais petite, j'en avais un peu rien à faire, je vais pas te mentir. Et par contre, en grandissant, c'est des artistes qui m'ont énormément touchée, énormément fascinée, et que j'écoute énormément aujourd'hui. Mais voilà, quand j'étais petite, c'était pas trop mon truc. Chez ma mère, par contre, c'était plus de la variété française. Berger, Gall, Jean-Jacques Goldman, bien sûr. C'est vrai que en y pensant comme ça, l'album entre gris clair et gris foncé, il tournait beaucoup à la maison. Et franchement, j'adorais ça. C'est vrai que c'est un petit peu mes premiers souvenirs musicaux et j'en ai plein. Balavoine, Mon fils, ma bataille, qui tournait dans la voiture sur une cassette. David Hallyday, Tu ne m'as pas laissé le temps. Voilà, c'est ce qui me vient comme ça, un petit peu au hasard. Puis des moments aussi où avec ma maman on chantait comme des folles dans le salon, c'était surtout souvent sur des chansons de Joe Dassin. Je pense que j'étais petite, j'avais 6-7 ans et voilà, c'est des paroles très simples en français, donc c'est facile à chanter et puis c'est très rythmé, donc voilà, siffler là-haut sur la colline, voilà, c'est c'est des super souvenirs. Et puis c'est vrai que je suis tombée quand même assez tôt dans la musique et surtout dans la chanson française, parce que dès 7-8 ans j'avais un Walkman. Le souci, c'est que j'avais qu'une seule cassette. Dans cette cassette, il y avait Les Amants de Saint-Jean, il y avait Allumer le feu de Johnny, et franchement, j'adorais ça. Alors, je sais pas si j'étais obligée d'adorer parce que j'avais que ça, ou si vraiment j'adorais, mais j'en garde que du bon souvenir. Et après ça, ça a évolué un petit peu. J'ai eu un, je sais pas comment on appelle ça, mais tu sais, un, Bon, lecteur CD portable, hein, comme le Walkman, mais pour écouter des CD. Et du coup, là, j'allais piocher un petit peu dans les CD de ma mère. Le premier que j'ai dû saigner, c'est le tout premier album de Kyo. Franchement, je le connais encore par cœur aujourd'hui, tellement je l'ai écouté. Et plus étonnant pour une enfant, j'ai écouté vraiment en boucle le premier album de Raphaël, Caravane, ouais, dans les années 2004-2005, un truc comme ça. Je l'ai vraiment écouté en boucle. Il y avait des textes. Maintenant, quand je le réécoute, je me dis, mais les textes sont magnifiques. Je comprenais pas ce que j'écoutais, ce que je chantais. Mais je sais pas, je ressentais quelque chose de très fort avec cet album et je l'aimais beaucoup. Donc voilà, ça peut paraître bizarre, mais à 7 ans, j'écoutais du Raphaël, quoi.
Pourquoi même les nuages ne pas rester ici? Si j'étais eux, je marcherais vite. Je ferais pas d'économie. Et un autre jour s'en va. Tourne et tourne et ne s'arrête pas.
De quel artiste étais-tu fan pendant ton adolescence ?
Alors, à l'adolescence, j'étais fan d'un chanteur qui s'appelle Tyler Hilton. Il est américain, il fait du rock folk et surtout il jouait dans une série dont je suis obligée de parler parce que c'est un peu de là que tout est parti. Cette série, c'est One Tree Hill, les frères Scott en français. Je pense que vous connaissez sûrement si vous avez grandi à la même époque que moi. C'est une série dramatique dans laquelle la musique a vraiment une très grosse place. Déjà, juste le titre, One Tree Hill, c'est le nom d'une chanson qui se trouve sur l'album The Joshua Tree de U2. C'est un album que le créateur de la série écoutait en boucle quand il bossait sur le scénario. Et cette série, c'est une playlist géante. Il y a des morceaux pop-rock qui sont juste incroyables, des morceaux très intenses, très émouvants. Par exemple, c'est devant un épisode que j'ai entendu pour la première fois la chanson The Funeral du groupe Band of Horses. J'avais genre 13-14 ans et j'ai pris une énorme claque que j'ai pas compris ce qui se passait. En plus, c'est varié. Il y a des classiques comme Led Zeppelin, The Cure, mais il y a aussi des artistes locaux de là-bas, en Amérique, qui ont été mis en avant et qui sont très plaisants à découvrir. Et en fait, c'est un peu à travers cette série que j'ai découvert que la musique pouvait faire ressentir des émotions très très fortes. C'est grâce à cette série que je suis en quelque sorte tombée amoureuse de la musique. Et cette passion, ça a été le point de départ de plein de choses. Mes podcasts, mais aussi mon métier, hein, puisque je suis animatrice radio et que au quotidien, ce que je fais, c'est que je partage la musique que j'aime aux gens. Donc ouais, voilà, Tyler Hilton et plus largement la série One Tree Hill, ça a été la grande histoire musicale de mon adolescence.
Quel a été le premier album que tu t'es offert ?
Alors là, on va revenir à mon enfance et à ma passion pour la variété française. Peut-être que je me trompe, hein, parce que c'est un peu compliqué comme question de se situer dans le temps. Mais déjà, ce que je sais, c'est que j'achetais énormément de CD de titres. Et du coup, comme tout enfant né dans les années 90, j'étais fan de la Starac. Donc ouais, j'achetais les hymnes en CD de titres, L'Orange du Marchand, Laissez-moi danser, tout ça, tout ça. Et le premier album que j'ai dû acheter, moi, avec mes sous d'enfant, je pense que c'est sûrement l'album de Grégory Le Marchal, Je deviens moi. Greg, c'était la première fois que j'étais fan d'un chanteur, donc évidemment, ce disque a beaucoup marqué ma vie.
Quel a été le premier concert dont tu te souviennes ?
Le premier concert que je suis allée voir, c'est assez facile parce que ça s'est fait tardivement. J'avais 16 ans et c'était Tyler Hilton, dont je parlais tout à l'heure justement. Ça faisait des années et des années que je bassinais mes parents pour aller le voir. Et ça s'est enfin fait, c'était il y a 11-12 ans, un truc comme ça. C'était à Paris et c'était plus un showcase pendant une convention qu'un vrai vrai concert, je dois dire. Mais bon, c'était intimiste, c'était super cool. Et puis ben voilà, j'étais ado, c'était le rêve qui se réalisait. J'avais des étoiles plein les yeux. En plus, à la fin, il y avait la séance de dédicace. Donc, je partais dans l'optique que j'allais lui dire plein de trucs. Et 16 ans, aucune confiance, je n'ai rien dit. J'ai juste étendu mon CD, il l'a signé et puis je suis partie. Mais heureusement, j'ai pu le revoir quelques années plus tard pour vraiment en discuter, parce que je trouve que c'est important de partager des moments et de discuter avec des artistes qu'on apprécie, pas forcément juste faire une photo et une dédicace, mais échanger. Je trouve que c'est important quand on admire quelqu'un. Donc heureusement que j'ai pu le revoir, mais voilà, c'était la première fois que je voyais un concert et que je rencontrais un artiste dont j'aimais profondément la musique, donc ça reste un super souvenir. Every time I think of you, I always catch my breath, and I'm still standing here at your mind. Quel est l'album que tu as le plus écouté dans ta vie et ta chanson préférée de cet album ? L'album que j'ai le plus écouté, je pense que c'est le MTV Unplugged de Nirvana. C'est un disque donc live acoustique que j'ai découvert grâce à mon père et qui nous fait complètement redécouvrir l'univers de Nirvana et de Kurt Cobain. Avec le temps, je pense que c'est un peu devenu ma safe place. Tu sais, le genre d'album que t'écoutes quand t'as besoin de réconfort, quand t'as besoin de ressentir des choses, ou juste que t'as rien d'autre à écouter, que tu cherches un truc et que tu retombes toujours sur celui-là. Ouais, je sais pas, il se passe toujours quelque chose de spécial quand je l'écoute, et en plus il n'y a pas forcément de chansons que je préfère dans l'album, tout est dans la même atmosphère, c'est une continuité, et jamais je vais écouter un seul morceau du disque. Si je l'écoute, c'est en entier, donc c'est un peu compliqué de choisir. Mais ouais, si vraiment je dois choisir, je vais quand même te dire la reprise de David Bowie, The Man Who Sold the World, parce que c'est comme ça qu'on a découvert cette reprise, Kurt Cobain qui chante du David Bowie, et elle est incroyable cette reprise, donc ouais, je vais dire ça.
Quelle chanson te touche à chaque écoute ?
Alors, pour tout te dire, je redoutais un petit peu cette question. Je me doutais qu'elle allait être là et elle me faisait peur. Je l'appréhendais. Donc voilà, ça y est, elle est là. Et je l'appréhendais parce qu'en fait, il y en a tellement de chansons qui me touchent. J'en parle pas souvent, mais j'ai un rapport très fort à la musique. Je suis hypersensible. Et cette hypersensibilité, j'ai mis énormément de temps à la comprendre et à la maîtriser, parce qu'on n'en parle pas assez, en fait, dans les médias ou sur les réseaux sociaux. C'est vrai que depuis quelques années, ça va mieux, mais ça reste compliqué. Être hypersensible, c'est plein de choses à la fois. Et parmi ce plein de choses, c'est ressentir toutes les émotions très intensément. Donc moi, quand j'ai commencé à tomber dans la passion pour la musique, il y a certains morceaux qui me terrassaient complètement. Il se passait vraiment des choses très très fortes en moi, et j'avais du mal à comprendre que d'autres gens ne ressentent pas du tout la même chose. Alors forcément, on n'a évidemment pas tous le même rapport à la musique, mais cette hypersensibilité fait que les émotions que je ressens sont très fortes, et il y a des morceaux qui me terrassent, me font vibrer, ou même me font chialer comme une merde. Donc voilà, les chansons mélancoliques, nostalgiques, très prenantes, c'est, je pense, au final ce que je préfère dans la musique, justement parce que maintenant que j'ai compris tout ça, je me rends compte que j'ai de la chance, en fait. J'ai de la chance de pouvoir ressentir ce genre d'émotions grâce à la musique. Et si je devais choisir un seul titre qui me touche, je pense que je prendrais Run du groupe Snow Patrol, parce que c'est la première chanson qui m'a fait ressentir ce genre de truc complètement fou quand j'étais ado. Et dès que je l'entends, je ressens toujours les mêmes émotions, même 15 ans plus tard. Donc ouais, ça c'est important. I'll sing it one last time for you. Then we really have to go. You've been the only thing that's right in all I've done. And I can barely look at you, but every single time I do, no, we'll make it anywhere away from here.
Quelle chanson te fait danser à tous les coups ?
Alors, sans hésitation, ce sera Easy Lover de Phil Collins et Philip Bailey des Earth, Wind & Fire. Tout est bon, en fait, dans ce morceau. La compo, l'alchimie entre les deux, le clip aussi, il est trop bien. Voilà, c'est une des meilleures collaborations de l'histoire. Et pour moi, dès que je l'entends, c'est sourire assuré.
Quelle est la chanson que tu ne peux écouter qu'en faisant péter les watts ?
C'est très problématique pour moi ça comme question parce que j'écoute tout en faisant péter les watts. Dans la voiture, c'est un enfer, j'écoute le son beaucoup trop fort. Au boulot, je travaille dans une radio et vous pouvez demander à mes collègues, les volumes, ils sont toujours à fond. Et chez moi, par contre, j'écoute au casque parce que je suis quand même sympa avec les voisins. Donc franchement, tout s'écoute en faisant péter les watts. Mais surtout du AC/DC. Voilà, je pense que c'est pas possible d'écouter du AC/DC doucement. Donc ouais, je vais te dire un Thunderstruck. Voilà, c'est pas possible, c'est forcément à fond.
Quelle est la chanson qui parle le plus de ta vie ? Ou la chanson dans laquelle tu te reconnais le plus ?
C'est pas une chanson qui parle de ma vie, mais c'est une chanson qui m'a accompagnée tout au long de ma vie et que j'ai pris comme philosophie. Cette chanson, c'est The Show Must Go On de Queen, parce que déjà, je suis ultra fan de Queen. C'est un morceau que Grégory Lemarchal a repris. C'est aussi The Show Must Go On, le titre de l'un des épisodes de la série dont je vous parlais tout à l'heure. Donc voilà, il y a une petite symbolique et il y a aussi le message évidemment qui me parle énormément. Je l'ai d'ailleurs dans la peau, The Show Must Go On, puisque je me suis fait tatouer la phrase sur le bras. The Show Must Go On, c'est le spectacle doit continuer, c'est la vie doit continuer quoi qu'il arrive. À l'intérieur, mon cœur peut être brisé, mon maquillage peut couler, mais je garde le sourire. Donc voilà, c'est un message et une chanson que j'essaie de garder en tête quand ça va moins bien dans la vie. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. All in all, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless cry behind the curtain.
Toi, tu préfères les albums studio ou les albums live ?
Ah, c'est une très bonne question, ça. Déjà, album studio. Pourquoi ? Parce que j'adore les histoires. Pour moi, un album, c'est une œuvre à part entière qui a son histoire, son atmosphère, sa pochette. Voilà, c'est un tout. Et il y a tellement d'albums, en fait, qui m'ont accompagné tout au long de ma vie que c'est trop important et je serais obligée de dire album studio, voilà, pour tout ça, pour la symbolique. Mais j'apprécie aussi évidemment les albums live, notamment ceux d'un seul et même concert. C'est vrai qu'il se passe toujours quelque chose en fait dans un disque live. Il y a ce truc d'inattendu. Tu sais qu'en écoutant un album live, tu retrouveras pas la même chose que sur un album studio. Voilà, il y a des choses qui peuvent se passer. Il y a cette magie supplémentaire. Donc ça, c'est évident. Par exemple, un de mes lives préférés, c'est celui de David Gilmour à Pompéi. Quand tu lances Comfortably Numb et que tu tombes sur le solo de guitare de 4-5 minutes à la fin, c'est juste exceptionnel. Et ça, tu peux l'avoir qu'en live. Donc ouais, forcément, j'adore aussi les albums live. Là, il n'y a pas longtemps, il y a un ami qui m'a fait découvrir un live des Rolling Stones à l'Olympia qui a été capté en 95. Et j'ai adoré parce que les Stones, c'est des immenses tournées. Dans des immenses salles devant des milliers de personnes, et là ils se retrouvent à l'Olympia avec 2000 personnes et c'est intimiste, c'est convivial. Donc voilà, tu découvres, tu peux aussi sur les lives ou les unplugged par exemple découvrir une nouvelle facette des groupes ou des artistes, Ça serait très con de s'en priver. Donc ouais, si t'aimes la musique, t'es obligé d'écouter les deux.
Quel a été le meilleur concert auquel tu es assisté ?
Alors, pour être honnête, je pense que c'était Coldplay en 2016 au Stade de France. Pourtant, je préfère largement un concert dans une petite salle que dans un stade. Mais je sais pas, c'était juste waouh. Il y avait une ambiance de dingue. En fait, moi, ce qui m'a fait bizarre, c'est que dans les gradins, tout le monde était debout. Tout le concert, mais vraiment tout le concert. Alors que j'ai déjà fait des concerts dans des stades ou dans des grandes salles, et en principe, bon, ça s'assoit quand même assez rapidement, ça se lève quand il y a un tube, ça se rassoit, ça se relève quand il y a un autre tube. Mais là, c'était constamment, tout le long du concert, tout le monde était debout, ça dansait. C'était hyper fédérateur, en fait, comme concert, voilà, sur Viva la Vida, sur Fix You. Il y a eu des moments vraiment trop beaux. Et puis en plus de ça, Coldplay, c'est des bêtes de scène. Hein. J'en ai pris plein les oreilles, mais aussi plein la vue avec les bracelets lumineux, les feux d'artifice, les confettis. C'est un vrai spectacle, en fait. Et je pense que c'était la première fois que je voyais un vrai show comme ça, un petit peu dans l'excès. Donc ouais, j'avais l'impression d'avoir 12 ans et c'était trop bien.
As-tu une salle de concert préférée ?
Ouais, sans hésitation, c'est le Bikini à Toulouse. C'est une salle où on peut voir des grands artistes, mais aussi des plus petits artistes. La salle est super, le son est incroyable, vraiment c'est pépite. C'est convivial, il y a une ADN rock'n'roll. Voilà, récemment j'ai vu Nada Surf et Kaleo, c'était juste trop trop bien. J'ai adoré, j'adore cette salle. La programmation est trop bien, les gens sont trop bien, j'adore.
Quel concert as-tu été voir seul ?
Justement, en fin d'année 2022, je suis allée voir The Cure en concert toute seule au Zénith de Toulouse. Et j'avoue que c'est une expérience qui m'a un peu déstabilisée. D'un côté, c'était trop cool parce que le fait d'être toute seule, j'avais vraiment l'impression d'être dans ma bulle et de pouvoir kiffer à fond. C'est vrai que l'album Disintegration de The Cure, c'est un disque qui a beaucoup marqué ma vie. Donc c'était trop cool de découvrir en live certains morceaux comme Pictures of You, par exemple. Voilà, j'étais vraiment dans ma bulle. Mais de l'autre, c'était hyper frustrant, parce qu'un concert, pour moi, c'est avant tout du partage. Et là, bah, t'as personne de proche avec qui partager ça. Tu sors de la salle, tu peux pas débriefer, tu débriefes avec toi-même. Donc ouais, j'ai trouvé ça un petit peu perturbant comme expérience. Évidemment, j'hésiterai pas à le refaire. Hein. Je préfère y aller toute seule que de rater le concert. Mais je préfère largement y aller accompagnée.
Y a-t-il un concert qui t'a marqué ?
Il y a un concert qui m'a beaucoup marqué, oui, c'est Scorpion, que j'ai vu en 2015 au Zénith de Toulouse. C'était quelques jours après les attentats du Bataclan. Et c'était une atmosphère très particulière, parce que le monde du spectacle, des concerts, avait été touché par quelque chose d'horrible. Et il fallait montrer que malgré la peur, bah, il fallait continuer de vivre à fond ce genre d'événement. Et je me souviens que j'étais très proche de la scène et le groupe a fait une session acoustique en brandissant le drapeau français pour rendre hommage aux victimes. Et c'était juste incroyable comme moment, vraiment un vrai moment de communion. Et ouais, c'est des souvenirs qui sont gravés dans ma tête pour très très longtemps.
Y a-t-il un concert qui ne s'est pas passé comme prévu ?
Alors oui et non. Il y a quelques temps, je suis allée voir Elton John à la Défense Arena à Paris et j'ai été assez déçue parce que j'ai trouvé le son cataclysmique. Ça m'a un peu gâché le concert parce que je ne m'attendais pas trop à ça. Alors c'est vrai que la salle a assez mauvaise réputation au niveau du son, mais je me suis dit, bon, voilà, c'est une grande salle, c'est normal, ça va quand même le faire. Et au final, j'ai trouvé ça affreux. Et ce qui est drôle, c'est qu'Elton John aussi a trouvé le son pourri. Sauf que lui, bon, moi évidemment, j'ai rien fait, hein, j'ai juste râlé dans ma tête. Lui, il a pas hésité à engueuler les ingé-sons, la salle. Il a crié que c'était nul et qu'il préférait Bercy. C'était un grand moment, très drôle et un petit peu pathétique aussi pour la Défense Arena. Mais ouais, c'est marrant comme souvenir.
Tu as le pouvoir, en y pensant très très fort, de te téléporter à un concert pour le revivre. Tu choisis lequel ?
Ah bah écoute, si j'ai ce pouvoir, je choisirais de revivre une journée de juillet 2018. En fait, en 24 heures, j'ai vu deux concerts. Le premier, c'était Ed Sheeran au Stade de France. Alors, c'était loin d'être mon meilleur concert, mais écoute, c'est toujours sympa de passer la soirée avec Ed Sheeran. Et 24 heures plus tard, j'ai vu deux artistes américains que j'adore. C'est Kate Vogel et Tyler Hilton, dont je parlais tout à l'heure, évidemment. C'était à la Maroquinerie à Paris, donc une petite salle. C'était trop bien. Écoute, à la fin, il y avait photos, dédicaces. Il y a eu vraiment ce truc d'échange. J'ai pu parler avec eux et tout. C'était trop, trop bien. J'étais comme une enfant. Je suis retombée en adolescence, en fait. Et j'aimerais beaucoup revivre ce moment. Par contre, sans la chaleur, hein, parce que c'était en plein mois de juillet, la Maroquinerie, c'est 500 personnes sous terre, il faisait une chaleur, c'était insupportable. Donc ouais, la même chose en hiver, s'il vous plaît. Et ouais, c'était incroyable d'être un jour devant une méga star internationale dans un stade, et l'autre de passer sur une petite scène avec deux artistes américains locaux. Ouais, c'était deux salles, deux ambiances, mais c'était génial. Ouais.
Tu as également le pouvoir de pouvoir assister à n'importe quel concert que tu veux. Tu choisis de voir quel artiste. Ça peut être un artiste mort, vivant ou qui soit sur un autre continent.
Oh waouh, j'adore avoir autant de pouvoir. Bah écoute, vu que j'habite à Toulouse, j'avoue que Michael Jackson au Stadium de Toulouse, j'en ai tellement entendu parler que j'aimerais beaucoup m'y téléporter. Mais plus sérieusement, si je dois faire un choix de un groupe ou artiste à aller voir en concert, ce sera forcément Led Zeppelin, parce que pour moi Led Zeppelin c'est le plus grand groupe de l'histoire du rock, et si j'ai la possibilité, mais forcément que ce sera eux, mais aucune hésitation possible.
Quel est l'artiste ou le groupe que tu préfères aujourd'hui ?
Il y a deux groupes que j'ai pas lâchés de l'année 2023. C'est d'abord Greta Van Fleet avec leur dernier album Starcatcher. Greta Van Fleet, c'est un groupe qui est très inspiré par Led Zeppelin, justement. Et ils divisent un petit peu dans le monde de la musique. C'est soit on les adore parce qu'ils sont inspirés par Led Zeppelin, soit on les déteste parce qu'ils sont inspirés par Led Zeppelin. Donc voilà, pour moi c'est un petit peu un faux débat parce qu'on passe notre vie à dire que c'était mieux avant. Là on a un groupe de jeunes qui débarque et qui est influencé par un groupe d'avant, par la musique d'avant, et on trouve le moyen de leur reprocher. Parce que oui, c'est inspiré, mais il y a aussi leurs pattes et c'est moderne. Donc ouais, je comprends pas trop ce débat. on va dire que c'est mon petit coup de gueule. Deuxième groupe que j'écoute énormément en ce moment, c'est Måneskin avec leur dernier album Rush. J'avoue que Måneskin, je suis obsédée. Vraiment, c'est une obsession. Je les ai beaucoup trop écoutés cette année. Je trouve que c'est trop cool ce qu'ils font. C'est rock, c'est rebelle, c'est dynamique. Et franchement, c'est trop bien d'avoir ça en 2023. Donc voilà. Oui, c'est mainstream, mais en même temps, les Beatles et les Rolling Stones aussi, c'est mainstream. Donc je vois pas où est le problème. Et donc voilà, si c'est trop bien Måneskin, et si vous avez pas encore écouté la réédition de leur dernier album Rush, allez-y, il y a 5 nouveaux morceaux qui sont trop bien. Moi en ce moment, c'est la balade Valentine que j'écoute en boucle, elle est trop trop bien.
Tu ne peux écouter plus qu'un seul album de toute ta vie. Tu choisis lequel ?
Alors pour pas redire le MTV Unplugged de Nirvana dont j'ai parlé tout à l'heure, même si c'est sûrement celui-là, je vais te dire le 4e album de Led Zeppelin qui est juste mon préféré. C'est, je pense, mon album préféré, donc je m'en lasserai jamais, ça c'est sûr.
Le dernier CD que tu as acheté, c'était quoi ? Et toi, tu achètes plutôt en streaming ou vraiment tu tiens à l'objet, que ce soit CD, vinyle, cassette ?
Le dernier album que j'ai acheté, c'était Hackney Diamonds, le dernier des Stones. J'en attendais vraiment pas grand-chose et au final, j'ai été très surprise. Je le trouve très très cool cet album. Il y a la réédition qui est sortie il n'y a pas longtemps avec quelques morceaux live dessus en plus, donc c'est un bon mélange. Et ouais, j'ai eu le coup de cœur pour la collab avec Stevie Wonder et Lady Gaga. La version live d'ailleurs est trop cool. Lady Gaga, elle est complètement barrée. Mick Jagger, il est complètement barré, donc une super énergie. Et ouais, très très cool. Et puis le dernier vinyle par contre que j'ai acheté dans un tout autre style, c'était For Emma Forever Ago de Bon Iver. C'est un album sublime, juste exceptionnel, il y a quelques années, hein. Mais ouais, c'est un album que j'aime beaucoup écouter en automne et je l'avais pas encore dans ma collection, donc je l'ai vu et je l'ai acheté. Et du coup bah ouais, je suis du genre un petit peu tout acheter, CD et vinyle. J'ai un fonctionnement un peu, comme je disais, pour moi un album c'est une œuvre d'art, c'est un tout, c'est une histoire. Et quand il y a un album qui me touche et que j'aime particulièrement, qui a marqué ma vie, ou voilà, qui se passe vraiment quelque chose, j'aime bien l'avoir en vinyle parce que voilà, ça me tient à cœur et j'aime bien avoir l'objet. Et en CD, je vais plus acheter des nouveautés ou des trucs que j'ai envie de saigner en voiture, des versions live ou des best-of, voilà. Et puis évidemment, on va pas se mentir, j'écoute énormément aussi de streaming. Le streaming, c'est trop cool pour faire des découvertes musicales. C'est trop cool aussi pour écouter les choses directement. Ça vient de sortir, voilà, deux minutes après, on l'écoute. Et si jamais c'est vraiment cool, on l'achète en CD. Mais ouais, je consomme de tout, CD, vinyle, streaming. Je suis à fond.
La dernière chanson que tu as écoutée, c'était laquelle ?
Alors là, c'est le moment où je dois prendre mon téléphone pour aller voir sur ma plateforme de streaming. Alors, la dernière chanson que j'ai écoutée, c'est « Qui a le droit » de Santa. Et je suis très contente que ce soit celle-là, parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, je parle beaucoup de chansons en anglais, de rock, parce que c'est ce qui m'anime. Mais comme je le disais au début, j'ai aussi été bercée par la chanson française, et c'est quelque chose que j'aime énormément. Et « Qui a le droit » de Santa, si vous ne l'avez pas encore écouté, allez-y, parce que c'est une magnifique chanson, c'est un manifeste, les paroles sont sublimes, vraiment, il y a un crescendo, musicalement c'est fou, et en termes d'interprétation aussi, il se passe quelque chose de dingue, Santa a une voix, c'est déjà c'est incroyable, mais en termes d'interprétation, on entend du France Gall, on entend plein de choses, on sent ses influences, et en fait tout est beau. Que ce soit la mélodie, l'intensité, l'interprétation, la voix, le texte, tout est beau. Et si vous voulez prendre une claque en français, allez écouter « Qui a le droit » de Santa.
Qui a le droit de me montrer du doigt ? Il n'y a rien de manqué dans le garçon en moi. Qui a le droit d'oublier ses rêves ? Les anges d'enfants font les anges des grands.
Et le dernier concert que tu as vu, c'était quoi ?
Le dernier concert que j'ai fait, c'était Pomme à la Hallograin à Toulouse. C'est une super salle aussi, la Hallograin. Il y a vraiment une sorte de magie là-bas. Et ouais, Pomme, c'est une artiste qui me touche beaucoup. Elle a des textes très forts et une scénographie vraiment trop cool. Et elle fait partie de ces artistes français modernes comme Eddy de Préto aussi, que j'adore écouter et que j'aime beaucoup suivre.
Quel est le prochain concert que tu vas voir ou que tu voudrais voir ?
Plusieurs concerts prévus pour 2024. Greta Van Fleet, déjà, dont je parlais tout à l'heure. Ce sera au Festival de Carcassonne en juillet. Donc ça va être trop cool. J'ai trop hâte. En plus, j'ai vu que dans la setlist, il chantait ma chanson préférée qui s'appelle Broken Bells. Et j'ai vraiment trop hâte de vivre ce moment. Il y aura Deep Purple aussi au Zénith de Toulouse début juin. Et puis, évidemment, Taylor Swift en juin à Lyon. Ça, c'est mon petit côté pop. C'est bien parce que je vous dévoile un petit peu toutes mes facettes. On est passé par le rock, par la variété française. Et j'aime aussi beaucoup la pop. Et au-delà de la pop, hein, Taylor Swift, c'est juste incroyable ce qu'elle fait en ce moment. Les chiffres sont fous et c'est mérité parce que c'est pour moi la meilleure pour raconter des histoires à notre époque. Et vous le savez, maintenant, j'adore les histoires. En termes de songwriting, elle est au-dessus et elle se renouvelle sans cesse. C'est vrai que les albums pop-folk qu'elle a sortis il y a quelques années, Folklore et Evermore, c'est juste des bijoux. Et des chansons comme All Too Well, la version de 10 minutes, c'est juste trop trop fort. Alors il peut y avoir des préjugés sur Taylor Swift, mais je peux vous promettre qu'il y a des albums et des chansons qui sont juste trop bien. Donc ouais, j'ai hâte de la voir sur scène avec mes copines, ça va être un grand moment. Puis c'est l'une des plus grosses tournées de l'histoire de la musique, donc contente de pouvoir y aller. Et puis pour les concerts que j'espère, évidemment Maneskin, je les ai ratés en 2023 à Paris, donc j'espère qu'ils repasseront bientôt, parce que je le redis, mais je suis obsédée par leur musique en ce moment. Et puis les Rolling Stones aussi, hein. À l'heure où je parle, ils n'ont pas encore annoncé la tournée en Europe, mais ça ne saurait tarder. C'est vrai que je les ai ratés beaucoup de fois, les Rolling Stones, c'est jamais le bon moment, ça coûte très cher. Mais cette fois, je me suis conditionnée à l'avance, parce qu'il y a un nouvel album qui est sorti, donc je me suis dit qu'il allait avoir une tournée. Donc voilà, prochain concert en France, normalement, j'y serai, on croise les doigts.
Et enfin, question cruciale, quelle est la meilleure chanson de tous les temps pour toi ?
Sans aucun débat possible, pour moi la meilleure chanson de tous les temps, c'est Stairway to Heaven de Led Zeppelin. Et si vous voulez savoir pourquoi, bah ça tombe bien parce que j'en ai fait un podcast. Mon podcast s'appelle Derrière le son et dedans je vous raconte les histoires qui se cachent derrière les plus grandes chansons. Parce que derrière le son, il y a toujours une histoire. Et voilà, j'aime beaucoup le montage audio, donc j'essaie de faire des épisodes très rythmés, avec beaucoup d'extraits. C'est à la fois rock'n'roll et sensible, et c'est facile à écouter en plus de ça, parce que ça ne dure jamais plus longtemps qu'une chanson. Merci beaucoup à Camille de m'avoir invitée dans ce super podcast. Camille, vraiment continue ce que tu fais, c'est trop bien, c'est enrichissant, intéressant, et surtout il y a cette notion de partage qui moi me touche et m'anime particulièrement. C'était une très très bonne expérience de me livrer à ton micro, donc merci pour ça, parce que je parle beaucoup de musique dans mon métier, vu que je suis animatrice radio, dans mes podcasts, mais je parle rarement, voire pas du tout, de mon rapport avec la musique, et c'était trop bien de pouvoir le faire, donc merci à toi, continue comme ça, et surtout vive la musique.
All it glitters is gold, and she's buying the stairway to heaven.
Je vous invite à découvrir le podcast Derrière le son. C'est un podcast qui vous inonde de musique et d'histoire. J'ai toujours aimé découvrir pourquoi une chanson a été écrite, qu'est-ce qui a pu arriver dans la vie d'un artiste, qu'est-ce qu'il a voulu nous raconter. J'ai même voulu en faire un podcast moi-même avant celui-ci. Ce podcast de Tessa, il est passionnant et de grande qualité. Les épisodes sont courts et je n'en loupe pas une miette à chaque sortie. Vous connaissez maintenant ses références musicales. Son podcast lui ressemble. Très belle découverte à vous. Moi, je ne me lasse pas d'écouter des épisodes, même plusieurs fois, ou de le faire découvrir autour de moi. Un grand merci Tessa pour ton partage et ta confiance. Ça a été un bonheur de découvrir qui se cache derrière le son. C'était le podcast La Joie de Camille. Merci pour votre écoute et à très bientôt. I look to the west.